Alors ça y est, nous sommes en décembre, le froid est arrivé, la neige aussi, les villes s'illuminent, Noël approche. Noël approchant, on décore sa maison, son appartement avec des guirlandes, on met des pulls de saison avec des rennes blancs et des pois blancs, par exemple, comme Jack. On mange un chocolat par jour, le chocolat de son calendrier de l'Avent. On se met à boire du vin chaud, à manger du foie gras. Le foie gras, qu'est-ce que serait Noël sans foie gras? Dans la Bible, c'est pareil. Qu'est-ce que serait la Bible sans foi et grâce? Sans la foi et la grâce. La semaine dernière, on a vu la grâce d'après Romains 3, versets 21 à 26, et on y a parlé de justification par grâce. Et j'ai essayé de résumer un petit peu ça avec le schéma qui va apparaître sous vos yeux ébahis, si Marion était un petit peu au taquet. Alors, c'est un schéma qui est un schéma. L'élément central de Paul, c'est « nous sommes justifiés ». Nous sommes déclarés justes. Et on avait vu que être justifié, c'était être acquitté des charges qui pesaient contre nous, acquérir le statut de juste. Comment cela est-il possible, sachant que les hommes sont injustes devant Dieu? C'est possible grâce à la croix. La croix, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois une rédemption, c'est-à-dire un prix à payer pour être libéré. C'est aussi un sacrifice. Un sacrifice, c'est le fait de réparer une faute commise envers Dieu par l'échange, en s'échangeant avec une victime innocente, on sacrifie la victime à sa place. Et c'est un sacrifice propitiatoire puisqu'il apaise la colère de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes justifiés. En fait, avec la croix, Jésus prend la condamnation à notre place. Et ça apparaît pas sur le schéma, mais on est au bénéfice des effets de la croix par la foi. Il n'y a rien à faire pour devenir juste à part avoir foi. Donc c'est en très résumé ce qu'on a essayé de voir la semaine dernière. Et j'ai pas traité des versets 27 à 31 et je vais en traiter très rapidement ce soir. Est-ce que tu peux passer? Merci. Alors, où est donc la raison de se montrer fier? C'est la suite de notre passage. Hein. Elle a été exclue par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi celui des non-Juifs? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs, puisqu'il y a un seul Dieu qui déclarera les circoncis justes sur la base de la foi, et qui déclarera aussi les incirconcis justes au moyen de la foi. Cela signifie-t-il donc que par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi? Certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi. En fait, cette partie, disons que le chapitre 4 est en parallèle de cette partie, parce que il y a au moins 4 éléments abordés ici qui seront vus dans le chapitre 4. Il y a la question de la fierté. Vous avez dû voir, les versets 1 et 2, ils parlent de la fierté. Il y a la question d'être déclaré juste indépendamment des œuvres. Il y a le fait que Dieu est le Dieu des Juifs et des non-Juifs, des incirconcis et des non-circoncis. Et il y a la question, mais et la foi par rapport à la loi, si nous sommes sauvés par la foi, à quoi est-ce que ça sert la loi? Alors, Alors, juste peut-être quelques petits détails quand même sur ce texte-là. Dans les versets... dans le verset 27, il est question de fierté. Si la fierté visée, c'est la fierté de l'obéissance à la loi, Dieu nous doit quelque chose parce que nous accomplissons la loi. Il y a deux lois qui sont opposées, la loi des œuvres ou la loi de la foi. Donc ce qu'il faut peut-être comprendre ici, c'est plutôt l'idée de loi au sens large, c'est-à-dire qu'on est gouverné par la loi de la foi, le principe de la foi, le système de la foi et pas le système de la loi. Verset 28, l'être humain est justifié par la foi en dehors des œuvres de la loi. Luther avait traduit ce verset, l'homme est justifié par la foi seule, en opposition au catholicisme. Et dans le texte, il n'y a pas écrit justifié par la foi seule, mais dans le contexte, on comprend bien que si c'est en dehors des œuvres de la loi, si c'est en dehors du faire, de nos efforts, on comprend assez facilement qu'on est justifié par la foi seule, par seulement la foi. Au verset 29, il est question d'une sorte d'égalité. Nous sommes tous égaux devant la loi de la foi. Dieu est le Dieu de tous les hommes. Tous les hommes ont accès au salut par la foi. Et la question posée par le verset 31, c'est la problématique de « si on est sauvé par la foi, à quoi sert la loi ?» On va voir la suite maintenant de notre passage.
Tu peux revenir en arrière ?
Voilà. Romains 4, le passage sur lequel on va s'attarder ce soir, je vais le lire. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre ? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts ? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Il y a la suite. Après, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou bien est-il également pour les incirconcis? En effet, nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Quand donc a-t-elle été portée à son compte? Était-ce après ou avant sa circoncision? Ce n'était pas après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Et il a reçu le signe de la circoncision comme gage de la justice qu'il avait obtenue par la foi, alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. Il est aussi le père des circoncis, qui ne se contentent pas d'être circoncis, mais qui marchent aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham quand il était incirconcis. Alors l'histoire d'Abraham ne date pas d'hier. Paul parle d'Abraham comme d'un ancêtre. Donc, normalement, vous avez un peu vu qui est Abraham dans les groupes de discussion. Abraham, c'est un type qui a vécu au début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, entre 1600 et 1800 ans avant Jésus-Christ. Il vient de la ville d'Ur, U-R. Pas très longtemps avant Abraham, cette ville était à la tête d'un empire qui a dominé toute la Mésopotamie. Abraham devait probablement être animiste, adorer les dieux d'Ur, mais un beau jour, Dieu, le vrai, le seul, se révèle à lui et lui dit en gros, va-t'en d'ici, quitte ton pays, ta famille, tout ce que tu as. Et il accompagne cette horde d'une promesse, je ferai de toi une grande nation. Il y a un certain nombre de péripéties avec Abraham relatées dans Genèse 12 à 25. Et Abraham, il faut bien comprendre pourquoi Paul utilise Abraham dans son argumentation. C'est un personnage particulièrement important pour les Juifs. Parce qu'Abraham, c'est le patriarche, c'est le père de la nation d'Israël. C'est intéressant de noter le nôtre, notre ancêtre. À quoi correspond ce nôtre ? C'est probablement les Juifs qui ont pour ancêtre Abraham. Mais ce qui va être intéressant dans ce chapitre, c'est que Paul va développer l'idée que Abraham est l'ancêtre de tous les croyants par la foi. Il va étendre ce nôtre à tous ceux qui ont foi. Et ça, c'est surtout le sujet de la semaine prochaine, en fait. Mais il faut quand même avoir ça en tête dès maintenant. Parce que l'enjeu est important. L'enjeu est important parce que Abraham est quelqu'un de fondamental pour les Juifs. C'est lui qui est à la base d'Israël, à la base du peuple d'Israël. Marion, s'il te plaît. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre ? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts ? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. Alors, le premier sujet qui avait été abordé au verset 27 du chapitre 3, c'était l'idée de fierté. La justification par grâce, au moyen de la foi, exclut la fierté, puisque tout a été fait, non par celui qui est justifié, mais par Jésus-Christ, à la croix. Ici, c'est un peu le même raisonnement qui est appliqué à Abraham. Il le dit avec une question de rhétorique. Si Abraham a été considéré comme juste par ses œuvres, alors, il a de quoi être fier. Devenir juste par ses propres moyens, c'est quelque chose, il faut l'avouer, plutôt gratifiant. Mais il complète sa phrase. Mais non devant Dieu. Pour Dieu, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas par son travail, par ses efforts, qu'on devient juste. Sous-entendu, c'est pas par ses œuvres qu'Abraham est devenu juste. Autrement dit, Paul, avec cette petite phrase, jette un pavé dans la mare. Et on a peut-être un peu de mal à se rendre compte, nous lecteurs de la Bible, coupés du judaïsme depuis quelques siècles, que ce que dit Paul est plutôt polémique. Oui, Paul polémique. On a des traces. Alors, entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, on a quelques traces de comment le judaïsme a interprété la figure d'Abraham grâce à certains écrits, à certains livres écrits entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Par exemple, dans 1 Maccabée 2, verset 52, il est dit, c'est pas la Bible, hein, « Abraham n'a-t-il pas été trouvé fidèle dans l'épreuve et cela ne lui a-t-il pas été compté comme justice ?» Autrement dit, Abraham a obéi, Abraham a été fidèle, donc ça lui a été compté comme justice. Et même en prenant des textes de la Bible, on ne serait pas forcément tout de suite venu à la conclusion de Paul. Par exemple, dans Genèse 22, verset 16, il est dit « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je multiplierai ta descendance, etc. » C'est un rappel de la promesse. « Parce que tu as obéi, je te bénirai. » On a l'impression que c'est plutôt les œuvres qui sont à l'œuvre ici, chez Abraham. Et le pompon, c'est avec Jacques 2, verset 21, qui dit carrément « Notre ancêtre, Abraham, n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ?» Donc ce que dit Paul ici, c'est pas nécessairement une affirmation triviale, évidente. Alors, est-ce que Paul a une interprétation capillotractée, tirée par les cheveux ? Est-ce que la Bible se contredit ? Est-ce que c'est ma dernière question de rhétorique ? On va voir ça dans la deuxième partie, puisque Paul argumente à partir de l'Écriture. Abraham a été sauvé par la foi et non par les œuvres. On va voir comment est-ce qu'il argumente ça dans la première sous-partie. Le bonheur de la foi. Comme au verset 27 et 28 du chapitre 3, Paul va mettre en opposition la loi et les œuvres. Par quelle loi ? Est-ce que tu peux passer, Marion ?
Ouais. Verset 27, en fait, je lis le verset 27. Par quelle loi ? Par celle des œuvres, non par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. C'est ce qui est parallèle au chapitre 4. Dans ces versets, il était question de la loi, des œuvres opposées à la loi de la foi. J'en avais dit un petit peu quelques mots tout à l'heure, c'est-à-dire, il faut comprendre ça dans, dans l'idée de principe de la foi. C'est la foi qui nous permet d'être déclarés justes. Et maintenant, tu peux passer, Marion. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Pour argumenter, Paul va citer un verset de l'Ancien Testament que vous avez déjà vu, je crois, dans vos groupes, dans le chapitre 15. J'ai mis des couleurs ici. Les mots en gras, de la même couleur, en gros, sont les mêmes mots en grec, ou alors de la même racine de mots. Donc par exemple, c'est pour ça que on a eu confiance, croit, foi. En gros, c'est le même mot qui est traduit un petit peu différemment. Les mots en violet aussi, c'est le même verbe qui est utilisé. C'est intéressant de voir comment cette version traduit ce mot « être compté ». Vous avez dû voir que c'était une notion importante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que Dieu compte, met au compte d'Abraham sa foi comme justice. Alors, c'est traduit être compté, porté à son compte. Dans d'autres versions, vous avez peut-être le mot imputé. C'est un peu l'idée, comme si on avait un compte en banque. Quand on met de l'argent dans le compte en banque, on impute le compte d'une certaine somme. Au chapitre 2, verset 28, ce même mot est traduit par « nous estimons ». Au verset 6 du chapitre 3, il est traduit par « attribuer ». Dieu attribue la justice. Alors, comment comprendre cette expression ? Abraham a eu confiance ou foi en Dieu et cela lui a été compté comme justice. C'est un peu la même chose qui se passe au chapitre 2. Rappelez-vous, il était dit quelque chose comme « les incirconcis ne seront-ils pas considérés comme circoncis ? Leur incirconcision ne sera pas considérée comme circoncision ?» Ici, les incirconcis, ils ne sont pas circoncis. Ils sont considérés comme circoncis. Ils sont pas dans l'état d'incirconcision, mais ils sont considérés comme s'ils l'étaient. Ici, c'est la même chose. La foi, c'est pas la justice, mais elle est considérée comme de la justice. Sa foi est comptée, considérée comme justice. Et là, on voit bien l'idée de grâce dans la foi. C'est-à-dire que Dieu n'était pas obligé de compter la foi d'Abraham comme justice. Mais il l'a fait. Comme par grâce, comme une faveur. Et Paul vraiment, il insiste beaucoup sur l'opposition entre la foi et les œuvres. Le salaire, c'est l'argent imputé sur le compte du travailleur, parce qu'il a travaillé. Tout travail mérite salaire. Le salaire, c'est le mérite du travail. Verset 5, Paul insiste bien. « Si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste, celui qui n'est pas juste, sa foi est considérée comme justice. » Ça n'a rien à voir avec les efforts à produire. Et il faut bien comprendre ce qui est en jeu. C'est le débat du début. Comment comprendre la foi d'Abraham ? Parce que pour les Juifs, la foi d'Abraham, c'est un peu l'obéissance. Abraham a obéi, il a quitté son pays, il a offert Isaac en sacrifice. Il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Donc, sa foi obéissante, a été comptée comme justice. Il a eu foi, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais ce n'était pas forcément évident tant que ça d'avoir foi. Sa foi est comprise un peu comme un mérite. Mais Paul n'a pas compris la foi comme ça. À aucun moment, Paul ne parle de l'obéissance d'Abraham. Et en fait, si on prend Genèse, l'ensemble de la Genèse, de la vie d'Abraham, dans son contexte, on voit que la vie d'Abraham est obéissante, mais pas tout le temps. Est-ce que tu peux passer, Marion, s'il te plaît?
Voilà. Donc là, il y a tous les épisodes de la vie d'Abraham. Et vous voyez que ça forme en fait un truc concentrique. Il y a des choses qui se répondent à chaque fois. La promesse, elle est là. Le premier épisode après la promesse, qu'est-ce qui se passe?
C'est la fameuse histoire de Abraham face au Pharaon. C'est l'histoire d'Abraham qui essaie de s'en sortir tout seul et qui ne compte pas vraiment sur Dieu.
C'est un épisode qui se répète même chez Abimélech au chapitre 20.
Le cœur du récit de la vie d'Abraham, c'est la naissance d'Ismaël.
C'est ce récit-là, il est encadré par les deux récits que vous avez lus, je crois, tout à l'heure. Notre fameux passage où la justice lui est imputée et le passage où il y a la circoncision.
Et qu'est-ce qui se passe au milieu ? L'histoire d'Ismaël, c'est Abraham qui essaie d'avoir un descendant par ses propres moyens. C'est Abraham qui n'a peut-être pas assez confiance en Dieu pour que Dieu accomplisse la promesse qu'il avait fait à Abraham. C'est l'exemple de peut-être pas tant que ça l'obéissance. Alors après, avec Isaac, on a un bel exemple d'obéissance, c'est vrai, mais c'est un bel exemple de foi qui obéit. Mais en fait,
ça se passe ici. C'est-à-dire que ça fait belle lurette depuis l'épisode d'Isaac que Abraham a été considéré comme juste. À ce moment-là, Abraham a quand même dans sa balance pas tant de choses qui sont si positives que ça.
L'autre élément qu'il faut bien comprendre, je crois, c'est le mot foi. Qu'est-ce qu'on entend par foi ? La foi n'est pas synonyme d'obéissance, mais l'obéissance, c'est vrai, peut être et devrait être une conséquence de la foi. Alors la foi, qu'est-ce que c'est ? Souvent, quand on pose à un public la question « c'est quoi la foi ?», il y en a toujours un pour citer le verset d'Hébreux 11, verset 1, hors de son contexte. Je ne vais pas revenir dessus, en fait. Mais le mot « foi », dans notre texte...
Est-ce que tu peux passer, Marion, s'il te plaît ?
Voilà, le mot « foi », dans notre texte, il a été traduit par « foi »,« croire »,« avoir confiance ». Et souvent, dans nos têtes... Je crois que la foi, c'est essentiellement le domaine de la croyance. La foi, c'est croire sans voir. Croire en quelque chose qui est indémontrable. Alors, c'est pas faux, hein. Mais la foi dans la Bible, c'est plus que ça. C'est bien plus que ça. Je crois que l'idée de confiance, elle transmet bien cette idée dans la foi. La confiance, c'est pas juste l'idée de croyance, mais aussi l'idée d'assurance. Assurance en l'autre, considérer l'autre comme fiable. Et bien sûr, dans la confiance, il y a la croyance. Si on fait confiance à Dieu, on croit qu'il existe, hein. Mais il y a aussi un aspect relationnel. C'est dans l'autre, c'est dans Dieu que nous plaçons notre confiance. Il y a une idée forte d'ancrage. On s'enracine en Dieu. On s'abandonne à Dieu, qui est entièrement fiable. D'ailleurs, la racine d'un des mots hébreux pour la foi, ça vient de la terre ferme, qui s'oppose à l'eau mouvante. La foi, c'est quelque chose de ferme, c'est quelque chose dans lequel on peut s'établir. Alors, c'est quoi la foi d'Abraham ? La foi d'Abraham, c'est une foi qui fait confiance aux promesses de Dieu. C'est parce qu'Abraham fait confiance dans le fait que Dieu va accomplir sa promesse, l'idée d'une descendance, d'un peuple qui va être source de bénédiction, c'est parce qu'il considère que Dieu est fiable. Dieu va faire ce qu'il dit. Et la foi à la lumière de Jésus-Christ, c'est exactement la même chose. C'est la confiance que Dieu nous justifie grâce au sacrifice de Jésus-Christ. C'est pas une œuvre, c'est pas de l'obéissance, mais c'est avoir l'assurance que ce que Dieu promet avec le sacrifice de Jésus, il va le faire. Notre foi, c'est avoir l'assurance que ce qui est dit dans ce texte est vrai. Parce que nous avons foi dans le sacrifice, C'est parce que nous avons foi dans le sacrifice que Dieu nous met au bénéfice de ce sacrifice. Notre foi, comme Abraham, nous est comptée comme justice, par la foi. Dieu nous donne le statut de juste, nous acquitte des charges qui pesaient contre nous par la foi, mais pas par l'obéissance. Et ça, il faut l'avouer, c'est plutôt cool. Et Dieu avait David avait compris cela. C'est un peu l'accent du verset suivant. Est-ce que... Non, reviens en arrière, pardon. Encore en arrière. Voilà, c'est la deuxième partie ici. Dieu avait compris cela. C'est l'accent, c'est le bonheur hein, de la justification. Paul cite le psaume 32, qui est un beau psaume, que vous pourrez lire en entier, qui exprime bien la foi et le pardon, et le bonheur d'être pardonné grâce à la foi. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Et là, c'est la citation, verset 7, « Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. » Et faut bien se rendre compte que c'est quelque chose de génial. De tout temps, les hommes, ils ont essayé de se sortir de leur sort. Ils ont inventé tout un tas de choses pour essayer de se sauver. Et malgré tous ces efforts déployés, on n'y arrive pas. On n'est pas capable. La seule solution, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous la donne. La solution de Dieu, c'est qu'il n'y a rien à faire. Il faut juste avoir confiance. Et la foi, c'est aussi ça. C'est s'apercevoir qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on est incapable, et face à cette incapacité, on se tourne vers lui, on compte sur lui, et on s'en remet à lui. Et ça, ça permet de se détendre. C'est un vrai soulagement, un vrai bonheur. Notre salut ne dépend pas de nos efforts, il dépend des efforts de Dieu. Les seuls efforts qui valent quelque chose. C'est aussi un bonheur pour tous ceux qui ont foi. Pour qui est ce bonheur ? Tu peux passer encore une fois. Pour qui est ce bonheur ? C'est un bonheur pour tous ceux qui ont foi. Paul revient à la charge sur un sujet qu'il avait déjà développé. Circoncision et incirconcision, juifs et non-juifs. Les juifs pensaient que la circoncision, c'est ce qui exprime l'appartenance au peuple. Certains juifs pensaient être sauvés, pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils faisaient partie du peuple de Dieu. Mais Paul a démontré dans la première partie de cette lettre que les juifs sont autant sujets à la colère et au jugement de Dieu que les non-juifs. Et le raisonnement de Paul ici consiste à dire « Tout comme juifs et non-juifs sont autant sujets au jugement de Dieu, les juifs et les non-juifs peuvent être justifiés par la foi. » L'argument est assez simple à comprendre, hein. c'est un argument chronologique. Abraham a été justifié avant la loi, Abraham a été justifié avant même la circoncision. Donc, dans quelle circoncision Abraham a-t-il été sauvé ? Dans la condition de l'incirconcision. Du coup, Abraham n'a pas été justifié par Dieu parce qu'il a été circoncis, vu qu'il n'était pas circoncis et qu'il a été justifié quand même. Il a été justifié par Dieu, parce qu'il a eu confiance en Dieu. En gros, le principe de la foi, il existait bien avant le principe de la loi, des œuvres de la loi. Et c'est par ce principe que la justice nous est imputée. C'est par ce principe que tous ceux qui croient sont sauvés. Et Paul va même jusqu'à dire, il pousse le bouchon jusqu'à dire que Abraham n'est pas seulement l'ancêtre des Juifs, il est l'ancêtre de tous ceux qui mettent leur foi en Dieu. Donc juifs et non-juifs forment un seul peuple par la foi. C'est le sujet qu'on développera plus la semaine prochaine. On va passer à la troisième partie, partie d'application, le bonheur de la justification face à l'orgueil. Ce bonheur dont parle David est pour tous ceux qui croient. Ce même bonheur exclut la fierté, ce qu'on a vu au verset 1 et 2. Et je crois qu'il y a, deux clés ici, l'idée de bonheur et de exclusion de la fierté, de l'orgueil, deux principes, deux clés pour comprendre comment le principe de la justification par la foi aide à vivre la vie chrétienne. La justification, faut être bien clair, c'est le point de départ de la vie chrétienne. La vie chrétienne démarre au moment où nous acquérons le statut de juste. Mais dans la suite de la vie chrétienne, nous sommes justes, mais nous restons pécheurs. Luther, le réformateur, il avait une expression très célèbre qui fait toujours classe à être citée. L'homme, donc je la cite du coup, l'homme, elle est en latin en plus, donc voilà. L'homme est simul justus et peccator. Simultanément, juste et pécheur. Et la justification, c'est le point de départ de la vie chrétienne. Et je crois qu'on peut même dire qu'elle est un principe qui continue à guider de la vie chrétienne. La justification combat l'orgueil qui subsiste même après le statut de juste qu'on a acquis. Que fait la justification ? La justification règle le problème de la culpabilité. Notre faute entraîne une culpabilité à l'égard de Dieu. Et nous aussi, chacun d'entre nous, plus ou moins, nous ressentons une certaine forme de culpabilité. Mais cette culpabilité ressentie n'est pas forcément le ressenti de notre culpabilité objective devant Dieu. Je pense que si nous ressentions vraiment la culpabilité que nous avons devant Dieu, je pense qu'on serait probablement complètement écrasé par elle. Cependant, il y a quand même, je pense on peut dire, un lien entre la culpabilité objective face à Dieu et notre culpabilité subjective que nous ressentons. Elle est probablement là pour signifier qu'il y a un problème. Elle est là pour faire prendre conscience à l'homme que les choses ne tournent pas rond. Le problème, c'est que le péché sépare l'homme de Dieu. Et la justification règle ce problème. Il règle le problème de notre culpabilité objective devant Dieu. Dieu n'a plus de charge contre nous. Alors, je crois qu'il y a deux catégories de gens, sans vouloir trop caricaturer, mais avec le temps qui est imparti, on est obligé de caricaturer un minimum. Il y a des gens qui vont avoir tendance à avoir une bonne estime d'eux-mêmes, à s'apprécier, et au contraire, des gens qui ont plutôt une mauvaise estime d'eux-mêmes, qui se déprécient. Un bon moyen de savoir dans quelle catégorie vous vous trouvez, c'est la question des entretiens d'embauche. Citez-moi trois qualités et trois défauts. Dans votre tête, sinon ça va être compliqué. Ceux qui s'apprécient n'auront pas de mal à trouver leurs qualités. Ceux qui se déprécient n'auront pas de mal à trouver leurs défauts. Les gens qui se déprécient, toute leur vie, vont avoir tendance à beaucoup culpabiliser. Tout ce que je fais, c'est soit nul, soit mal. Donc tous les problèmes finalement que j'ai, c'est un peu ma faute. Alors que c'est pas forcément le cas, on a tendance à trop se sentir coupable pour des choses pour lesquelles on ne devrait pas se sentir coupable. Les gens de la première catégorie, ceux qui s'apprécient, ont tendance au contraire à ne pas trop ressentir ce sentiment de culpabilité. Et ça en fait des gens globalement pas très stressés, pas très inquiets. C'est la tendance à dire que ce qui n'est pas bien, c'est peut-être pas si grave que ça. Du coup, on a tendance à ne pas se sentir coupable des fois où on devrait se sentir coupable. Et une justification bien comprise, je crois que ça aide à vivre la réalité de la culpabilité ressentie. Pour les gens qui se déprécient, ils auraient raison de ne pas se voir comme des gens bien, globalement. Oui, c'est vrai, personne n'est bien, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut arriver à faire le pas d'accepter que Jésus a payé pour notre culpabilité. Il a payé pour nos fautes réelles. S'il a payé pour nos fautes réelles, alors que dire de nos fautes imaginaires ? Il y a les autres aussi qui s'apprécient. Cela... On a plus de facilité à avoir l'orgueil chez eux. Pour eux, il faut apprendre à pas tant que ça s'apprécier, apprendre à accepter que nous ne sommes pas si bien que ça. Mais derrière tout ça, j'ai pas encore parlé de l'orgueil, derrière le ressenti d'une culpabilité, on peut voir probablement une certaine forme d'orgueil. L'orgueil, c'est la fierté qu'on peut avoir parce que malgré tout, nous cherchons à contrôler nos vies. Nous cherchons à être aux commandes de nos vies pour que nos bonnes actions ne soient pas attribuées à Dieu, mais plutôt à nous. Et je crois qu'il faut nuancer l'orgueil selon les deux catégories que j'ai essayé de définir. Et on n'a pas de mal à imaginer comment la première catégorie, ceux qui s'apprécient d'être orgueilleuses, ils ont naturellement tendance à être fiers de ce qu'ils font. Il y a ce désir de s'attribuer les bonnes œuvres. Mais même, faut se dire à la lumière de la justification, même nos bonnes œuvres sont une grâce de Dieu. Beaucoup de gens reprochent à Dieu, mais si Dieu existe, pourquoi le mal ? Et probablement, ils ne se posent pas la question inverse qui est pourquoi il y a du bien ? Si on était, si on faisait le mal selon notre nature pécheur, si Dieu ne nous empêchait pas de faire le mal autant qu'on pourrait le faire, il y aurait probablement beaucoup plus de mal sur cette terre. Même le bien que font les gens, tous les gens, c'est une grâce de Dieu. C'est ce qu'en langage théologique on appelle la grâce commune. Et pour cette catégorie de gens, il faut bien se rappeler que la première étape de la foi, c'est de reconnaître notre état d'incapacité. Si on fait confiance en Dieu pour notre salut, c'est bien parce que nous savons que nous-mêmes, nous ne sommes pas fiables pour notre salut. Et après quelques années de vie chrétienne, c'est facile de glisser doucement, d'oublier l'aspect pécheur par rapport à l'aspect juste. C'est facile d'oublier que nos bonnes choses ne viennent pas de nous, mais de Dieu. Alors c'est bon de se rappeler à nouveau de la justification. Et on pourrait croire que l'autre catégorie de personnes, ceux qui se déprécient, c'est pas des personnes orgueilleuses à cause du manque d'estime. Ils vont naturellement pas se glorifier de leurs bonnes choses. Mais si on en revient à l'idée que j'ai proposée d'un orgueil qui est notre volonté de contrôler notre vie, je crois qu'il y a quand même une certaine forme d'orgueil qui est présente. Il y a notre volonté de contrôler notre vie quand même. J'arrive pas très bien à contrôler la réalité qui m'environne, alors j'essaie de contrôler ce qui m'entoure à cause du profond sentiment d'insécurité qui est en moi. Mais s'il y a quelque chose qui va mal, finalement, s'il y a quelque chose qui va mal, c'est plus facile de me l'attribuer, de me culpabiliser, que de l'attribuer à ce qu'on ne peut pas contrôler, à ce qui nous expose à cette insécurité. Et la foi, encore une fois, c'est la réponse. On a vu que la foi, c'est un ancrage. La foi, c'est s'oublier, arrêter de s'accrocher à nous-mêmes pour contrôler notre vie, mais plutôt de s'accrocher à Dieu. Le seul refuge, le seul abri, la seule sécurité. Parce qu'à travers Christ, Dieu voit des justes, même si nous sommes toujours pécheurs. À travers Christ, Dieu voit des justes. Et ça vaut bien plus que tous nos malheurs, que toutes nos inquiétudes. Quand on désespère, quand tout va mal, alors je crois qu'il faut se souvenir de l'espoir. Quand on n'arrive plus à faire complètement confiance à Dieu, pourquoi ne pas prier que Dieu fortifie notre foi ? Tant qu'on n'est pas encore parfait sur cette terre, la culpabilité ressentie nous aide à nous rendre compte de nos limites. La vie chrétienne, c'est une vie où nous avançons, nous progressons en sainteté grâce au Saint-Esprit, mais c'est une vie en tension. Et la culpabilité, tant que nous sommes pécheurs, la culpabilité a toujours un rôle de nous rappeler que nos actes ne sont pas toujours bons, de ressentir que nos actes mauvais restent mauvais. La justification, elle ne nous aide pas à échapper à notre nouvelle condition, à notre condition sur Terre, à notre réalité, même si elle est changée avec un statut différent, mais elle aide à assumer ce que nous sommes, des gens à la fois justes et pécheurs. Je ne sais pas s'il y a quelques questions.